Alors, ce lundi, ça fait 2 semaines qu'elle est handicapée. Ah, ça fait, oui, c'est vrai, 8 semaines. Elle a fait ça samedi dernier. On a ce jeune étudiant américain Wayne qui va venir au mois de vendredi, jeudi, vendredi, et qui on sera à la recherche d'un endroit pour louer pour lui une chambre ou un studio à partager avec quelqu'un, un 2 pièces. Il y a les gros titres en ce moment dans Nice ce matin, tout est complet pour les étudiants. Même ces centres-là, ils travaillent pour finir là, pour le 1er octobre. Ils travaillent nuit et jour en ce moment. La semaine prochaine, on a un pique-nique. Normalement, c'est le dernier dimanche du mois, mais là, puisque je n'avais pas le temps aujourd'hui, on le fera la semaine prochaine. Et il y a un papier si vous voulez signer. Et on ne sait pas encore où on ira, ça dépendra du temps. Ce sera l'occasion de souhaiter la bienvenue à Rain, qui veut dire pluie en anglais. Alors, j'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Rain arrive. Ah, chouette. Et puis, on a reçu aussi un courrier de Steve et Suzy qui nous parle un peu de la santé de Suzy. Et elle avait peur d'avoir encore une grossesse extra-utérine. Ce n'est pas le cas, mais il y a un petit mot en anglais pour ceux qui. On passera à la fin. Donc ça va, on peut santé. C'est juste un peu. Il prie pour que ce soit plus un sujet permanent de soucis, quoi. Se demander si elle n'est pas en train de faire une grossesse extra-utérine ou pas. Et puis, tu avais une annonce à faire, Marie?
Oui, je voulais pas
Oui, donc ce serait le 11 à quelle heure?
16h30.
Tea time. Voilà. Très bien. Donc, on va. Oui, mobilisation. On va commencer par la prière. Seigneur, encore une fois, merci de nous réunir ce matin pour étudier ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est. Et la référence de ce que nous croyons, Seigneur, ce ne sont pas des choses que nous imaginons, des préférences, Seigneur, mais nous voulons nous référer à ta parole et c'est merveilleux de le faire, Seigneur, parce qu'elle est si riche. Seigneur, c'est un sujet tellement important, le baptême de l'Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour annoncer cette nouvelle et aussi la recevoir, Seigneur. Béni soit-il, au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Nous avons donc commencé une petite étude sur une série d'études sur le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait en fait 3 relations avec le Saint-Esprit que l'on trouvait dans la Bible, donc dans la réalité des choses. On voit qu'il y a d'abord une relation où le Saint-Esprit est auprès de nous. À la conversion, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix pour nous sauver, il nous dit que l'Esprit vient en nous, mais on voit dans le modèle que sont le livre des actes qu'en fait, pour être capable de servir le Seigneur dans sa puissance, il faut entrer dans une troisième relation, qui est la relation sur, où l'Esprit vient sur les apôtres à la Pentecôte pour les remplir de la force, de la puissance pour servir Dieu. On a vu en regardant un peu la vie et le récit des évangiles quant à la vie de l'apôtre Pierre, comment il avait une vie en dents de scie, il était un homme plein de zèle et plein de bonne volonté, mais ça ne suffisait pas. Il y avait des moments où il était prêt à mourir pour le Seigneur, et puis quelques heures plus tard, il le reniait trois fois avant que le coq ne chante. Et on voyait que c'était en fait une vie en montagne russe, une vie spirituelle. Et on voyait l'exemple aussi de lorsqu'une fois qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, alors à ce moment-là, Pierre pouvait être utilisé de façon puissante. Il convertissait, il prêchait une foule de 3000 personnes qui se convertissaient. Et donc, on a vu la semaine dernière qu'il y avait. Pourquoi il fallait être rempli du Saint-Esprit ? Sans l'Esprit Saint, en fait, on est sauvé. Mais sans cette troisième relation, on ne peut pas porter de fruits conséquents pour le royaume. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble, dans le livre des Actes, justement, plusieurs petits passages qui nous parlent de comment des chrétiens, comment des croyants ont reçu l'Esprit Saint. On va commencer avec Acte 2, page 133. Et c'est bien sûr ce qu'on appelle la Pentecôte. Je vais lire les versets 2 à 6. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On va s'arrêter là. Donc là, on voit la méthode pour recevoir l'Esprit Saint. Ils sont en groupe et ils prient, il est dit, d'un commun accord. Au verset 14 du chapitre 1. Et la manifestation qui se produit pour montrer qu'ils vont être remplis d'Esprit Saint, c'est ce bruit du ciel, comme celui d'un souffle violent. Alors on ne dit pas que c'était un souffle, on dit que c'était un bruit, qui faisait comme si ça avait été un souffle. Et puis il y a ces langues, qui là aussi, ce n'est pas des langues de feu, comme on dit souvent, mais c'était des langues semblables à du feu. Et là, finalement, la manifestation, c'est qu'ils parlent en d'autres langues, pas des langues inconnues, mais des langues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Et le résultat, c'est que tous les étrangers qui sont là peuvent comprendre la parole de Dieu. Encore une fois, l'Esprit Saint n'est jamais donné pour que nous soyons exaltés nous-mêmes, pour nous permettre d'impressionner les autres. Non, l'Esprit Saint est toujours donné pour le service de Dieu. Et là, on voit, c'est pour que tous les peuples païens qui sont, ou les peuples qui sont à Jérusalem pour la Pentecôte puissent entendre la parole de Dieu. Un peu plus loin, on va se tourner à Acte 4, chapitre 29, verset 29. Là encore, ce sont les Pierre et Jean qui étaient devant le Sanhédrin et ils se réunissent après, encore une fois, verset 24 du chapitre 4, ils sont réunis d'un commun accord. Et puis là, on voit qu'ils vont, on va dire à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, c'est la prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, ta parole en toute assurance. Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc la méthode encore, c'est ils se trouvent en train de prier d'un commun accord, en groupe. La manifestation, là, c'est que le bâtiment où ils sont réunis se met à trembler. Un peu comme en Italie, là, il y a eu un tremblement de terre, d'un seul coup, on sent la maison trembler. Il n'est pas précisé que si c'est un tremblement de terre, simplement le bâtiment où ils sont tremble. On peut remarquer qu'il n'est pas parlé, il n'est pas fait mention de parler en langue dans cet épisode. Mais le résultat, encore une fois, c'est l'annonce pleine d'assurance de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour que les gens se précipitent et disent « Oh là là, il y a des guérisons, on va venir se guérir. Le prédicateur qui dit « demain après-midi à 6h, guérison, venez, donnez de l'argent et vous serez guéri. » Non. Encore une fois, ces signes, tout cela, c'était fait pour que la parole de Dieu soit annoncée avec assurance. Un peu plus loin, un autre épisode en Actes 8. Verset 14, 142. Alors, il y a une persécution à Jérusalem et les chrétiens, pas les apôtres, mais les chrétiens partent en Samarie et ils commencent à prêcher la parole, à témoigner de leur foi. Et les gens se convertissent à Christ. Et au chapitre 8, verset 14, il est dit « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre le renvoie en lui disant « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc il réprouve ce sorcier, ce magicien, Simon, qui s'était dit, tiens, il y a de l'argent à faire avec ce système. Il y a encore beaucoup de gens qui disent ça, malheureusement. Et là encore, on voit une autre façon, une autre méthode. La méthode, on le voit, c'est encore la prière. C'est l'imposition des mains par Pierre et Jean. Donc, imposition des mains par des apôtres. La manifestation, il n'est pas fait question d'une manifestation visible, mais la réaction du magicien qui voit quelque chose, qui entend quelque chose, ou même qu'il a dû se passer quelque chose, peut-être dû parler en langue. Il pourrait y avoir aussi d'autres manifestations, comme une expression radieuse sur le visage, des battements rapides de paupières, des choses. Il prêtait à voir qu'en fait il s'était passé quelque chose. Mais le résultat, encore une fois, un peu plus loin, on le voit au verset 25, il retourne à Jérusalem, c'est Pierre et Jean, mais on peut supposer que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint retournent avec eux pour évangéliser plusieurs villages en Samarie. Encore une fois, c'est pour le service de Dieu que l'on voit cette manifestation de l'Esprit Saint qui remplit Paul, chapitre 9, on va regarder, c'est l'épisode fameux de l'apôtre Paul. On va lire à partir du verset 1, cette page 143. Donc Saül, c'était l'ancien nom de Paul. Cependant Saül, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Saül, Paul, au début, était le pire ennemi des chrétiens. Il les persécutait avec un zèle et une ardeur incroyables. Et bien sûr, c'est son chemin de Damas, devenu une expression de la langue française. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi je suis Jésus que tu persécutes. Il se serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Donc à la suite de cette rencontre spectaculaire avec le Christ, il devient aveugle pendant 3 jours. Et verset 10, il dit, « Aurélie avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien mal de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Donc Ananias écoute cette vision du Seigneur, il est prêt à faire la volonté du Seigneur, mais quand le Seigneur lui dit d'aller rencontrer Saül, il ne peut pas s'empêcher de dire « Seigneur, je crois qu'il y a une petite erreur là sur la personne, qui est sûr que ça vient vérifier les noms et les adresses, quoi, parce que c'était le persécuteur le plus terrible des chrétiens. » Et donc ça a demandé beaucoup de foi et de courage à cet homme Ananias que de dire « Oui, je vais aller frapper à la porte. » Et verset 15, le Seigneur lui répond, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Et là, on voit comment Ananias va prier avec Paul. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül, et dit, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Alors, passage intéressant. La méthode, on voit que c'est encore une fois l'imposition des mains. Par un simple croyant, cette fois, Ananias n'était pas un apôtre, c'était simplement des disciples, des premiers croyants qui suivaient le Seigneur. Cette fois-ci, la manifestation, là encore une fois, il n'est pas question, on ne parle pas que Paul ait reçu le don de parler en langue, c'est peut-être omis, mais c'est pas dit. La manifestation essentielle, c'est qu'il est guéri de son aveuglement, de sa cécité. En un instant, il recouvre la vue. Mais encore une fois, le résultat, c'est pas que Ananias se dit « Je suis le plus fort, venez par ici, je vais vous donner l'Esprit Saint. » Non, c'est que la parole est annoncée. Aussitôt, Paul se met à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Un peu plus loin, on va voir dans Acte 10. Acte 10, passage de versets 44 à 48. Ça, c'est l'épisode de Pierre avec Corneille. Corneille, c'était un centenier, c'est-à-dire un centurion de la Légion romaine, qui était pieux et qui craignait Dieu, mais qui ne connaissait pas encore Jésus. Et là aussi, il y a toute une explication qu'en fait, c'était très dur pour Pierre d'aller chez un païen, un gentil, comme on l'a dit des fois, un non-juif, parce que pour les juifs, se mélanger aux païens, c'était se souiller moralement, spirituellement, physiquement. Ils ne voulaient rien faire avec les païens, même manger avec eux, c'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire. Parce que lorsqu'on mange avec quelqu'un, on partage la même nourriture, et en quelque sorte, il s'établit une relation Eux sont un peu nous, nous sommes un peu eux. Et donc il a fallu encore que le Seigneur donne une vision, un peu comme pour une vision pour Ananias, pour faire quelque chose à Pierre qu'il n'aurait jamais fait tout seul. Pierre lui donne une vision d'un drap qui tombe avec des tas de nourriture, d'aliments, qui dans l'ancienne tradition juive étaient des aliments interdits. Et Pierre dit non, je ne veux pas manger. Et le Seigneur lui dit, ce que le Seigneur a déclaré pur ne le déclare pas impur. C'est-à-dire que si le Seigneur, ça c'est pour lui dire, si le Seigneur déclare que les païens, ceux qui ne sont pas juifs, peuvent aussi recevoir Dieu, peuvent être aussi purs, il ne va pas contre ça. Et un peu à contre-gré, malgré son désir, Pierre va voir ce centenier qui l'attend. Le centenier, lorsqu'il entend la parole, reçoit Dieu. Et verset 44, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il a expliqué un peu la foi en Christ, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Là, dans ce cas, la méthode, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque Pierre parle de la foi en Christ, il explique ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Ils ont le cœur ouvert, ils écoutent, ils reçoivent l'Esprit Saint en eux. Dans ce cas, la manifestation, c'est le parler en langue. Ils se mettent tous à parler dans des langues inconnues. Mais le résultat, c'est l'exaltation de Dieu. Ils chantent, ils louent le Seigneur. Et puis, on les baptise du baptême d'eau que certains ont reçu en juillet. Finalement, un dernier passage qu'on va regarder, c'est dans Actes 19. On va lire les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Donc, Paul rencontre ses disciples. Il est dit dans l'Épître aux Galates que lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit les... Il y a des fruits de l'Esprit qui sont manifestes en nous. Et ces fruits, c'est d'abord l'amour. En fait, c'est le fruit principal qui se manifeste sous différentes formes, qui sont la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et une personne qui est vraiment habitée par l'Esprit Saint va manifester ces choses. Il y aura cette joie, cette paix, cette patience. Et un peu dans la mesure, justement, où ces qualités nous font défaut, on peut se dire que on peut prier pour être rempli davantage de l'Esprit Saint. Et sans doute, Paul a remarqué qu'il manquait quelque chose. On va prier pour que ce chien se calme. Il n'a pas la paix. Il a la joie et l'exubérance. Et il avait sans doute remarqué qu'il y avait une ou plusieurs de ces qualités qui faisaient défaut à ses disciples, et il leur demande, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Et là, leur réponse est surprenante, ils disent, on savait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on n'avait pas expliqué qu'il y avait cette relation où l'Esprit Saint pouvait venir sur eux. Et là, ils sont baptisés, ils ont déjà reçu le baptême d'eau. Et sur ces paroles, alors on ne sait pas s'ils reçoivent un autre baptême, puisqu'ils avaient leur premier baptême n'était pas clair. Ils reçoivent un autre baptême, mais là, Paul leur impose les mains, et le Saint-Esprit vient sur eux, et là, manifestation des langues et des prophéties, c'est-à-dire pas nécessairement des prédictions sur le futur, mais une prophétie, ça peut être de parler fortement des vérités qui sont dans la Bible, de les annoncer fortement. Et résultat, verset 20, c'est que la parole se répandait efficacement. La parole de Dieu se répandait efficacement. Dans tous ces cas, si on a regardé tous ces cas, c'est en fait pour réaliser qu'il n'y a pas une seule méthode. Il n'y a pas une seule façon dont le Saint-Esprit vient sur un croyant. Et ça, c'est ça nous montre une étonnante diversité dans cette façon d'être rempli du Saint-Esprit. Ou pour l'autre expression, être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou être rempli de l'Esprit Saint. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 12 où Paul explique qu'il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et il y a des récits plus proches de nous, des pasteurs ou des écrivains chrétiens qui ont fait part de leur expérience. Et par exemple, il y a un auteur Finney qui a été connu pour parce qu'il a vraiment prêché le réveil, il y a eu du réveil autour de lui par sa prédication et ses réunions d'évangélisation. Lui, lorsqu'il parle d'avoir reçu l'Esprit Saint, il dit qu'il a eu l'impression d'être submergé par une onde électrique et par des vagues sur vagues d'amour liquide. Wow. Il a eu cette expérience. Il y a l'évangéliste Moody, l'évangéliste américain. Tu veux aller demander s'il te plaît, peut-être qu'il si peut éviter de le faire aborder. Oui, mais justement, c'est distrayant. Avec joie, bonté, patience et paix. Moody, donc, c'était aussi un évangéliste américain qui a fait cette expérience, c'est intéressant, lorsqu'il marchait dans New York, le long de Wall Street, la rue où se trouve la plus grande place boursière américaine. Je ne sais pas si c'est une relation avec les banquiers ou quelque chose. Lui, voilà, semble de l'argent. Lui, il parle d'une expérience indescriptible, trop sacrée même pour en parler. Et il est vrai que l'apôtre Paul fait part d'une expérience aussi dont il n'avait jamais parlé pendant 14 ans. Et tout ce qu'il peut dire, il dit, c'est que Dieu s'est révélé à moi. Et j'ai une telle expérience de son amour que je lui ai demandé de retenir sa main. C'est un peu comme il a dit, arrête, j'en peux plus, je vais... D'autres fois, un autre auteur parle simplement d'une réunion de prière où l'Esprit Saint agit. Et on voit donc une très très grande diversité de façons. Contrairement à certains enseignements, il y a certaines églises, les pentecôtistes par exemple, pour ne pas les citer, qui voudraient que tout le monde ait le même genre d'expérience, c'est-à-dire qu'on impose les mains et que la personne se mette à parler en langue. Alors qu'on voit qu'en fait dans la Bible, ce n'est pas du tout le modèle que Dieu est un Dieu de la diversité, et il sait que s'il y avait une seule méthode, on serait là à essayer d'attendre les étapes. On forcerait presque les étapes. Et c'est un peu ce que font certains groupes. Ils vont imposer les mains, et tant que la personne n'a pas parlé en langue, ils vont dire non, 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 c'est pas encore ça. Continue, prie. Et c'est pas l'enseignement biblique. On le voit, c'est toute la variété. Dieu veut agir selon sa volonté. On voit par exemple Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, il a guéri des aveugles, il les a guéris tous de façon différente. L'homme aimerait bien avoir une méthode. On dit qu'on aime la liberté, mais on est tellement prêt à dire c'est comme ça et pas autrement. Alors, on aimerait avoir une formule magique, un peu comme un abracadabra ou un sésame ouvre-toi, pour avoir la puissance à notre disposition, un peu comme dans les contes des mille et une nuits, Ali Baba dit sésame ouvre-toi, la porte s'ouvre, ou d'autres, c'est Aladdin qui a le génie qui est à sa disposition pour le servir et faire des choses merveilleuses. Mais Dieu n'a pas ça en tête. Dieu, on va en reparler, il veut nous faire un don de l'Esprit Saint. Alors ça ne veut pas dire que on doit reconnaître et respecter l'expérience propre de chacun dans cette réception. Fini a eu cette merveilleuse expression d'onde électrique, d'avoir des vagues d'amour liquide qui le submergeaient dans son esprit. C'est merveilleux pour lui, mais ça ne veut pas dire que moi, quand je reçois l'Esprit Saint, j'aurai la même expérience. Et si je recherche la même expérience, je vais être frustré si ce n'est pas ce que le Seigneur a pour moi. Alors c'est vrai qu'à la Pentecôte, il y a une expérience unique. C'est la première fois que l'Esprit Saint est venu sur les hommes. Il a transformé ce groupe de... Ces langues de feu, ce bruit comme un souffle violent. Ça, c'était la première venue, la venue initiale de l'Esprit Saint. Et ça, on ne doit pas chercher à répéter ça. Par contre, une fois que l'Esprit Saint est donné à l'Église, chacun de nous doit recevoir l'Esprit Saint pour le service, cette relation sûre dont on a parlé. Alors, à l'autre extrême, il y en a qui disent qu'en fait, on a tout reçu à la Pentecôte. Ça, c'est les églises plus conservatrices, plus traditionnelles, qui disent que le baptême du Saint-Esprit, c'était pour les apôtres, c'est pas pour aujourd'hui. Et on pourrait leur répondre, les 120 disciples qui priaient dans la chambre haute, qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils étaient bien sûr nés d'en haut, nés de nouveau, ils croyaient que Jésus était ressuscité. Et puisqu'ils étaient nés de nouveau, alors nous, on n'aurait plus besoin d'être nés de nouveau. Ils ont eu leur expérience initiale et après, tous ceux qui croient, ils sont nés de nouveau automatiquement. C'est un peu ce qu'ils disent. Ils disent les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, donc l'Église a l'Esprit Saint et c'est tout. Il n'y a pas d'expérience spéciale ou de nouveaux dons à recevoir. Mais de même que chacun de nous doit être né individuellement, c'est une décision personnelle, de même chacun de nous doit recevoir personnellement le Saint-Esprit dans cette relation épi en grec, sur nous, pour le service. Chose qui est intéressante aussi, c'est que dans tous ces récits, dans tous ces épisodes dont nous avons parlé, le Saint-Esprit se montre à la hauteur de sa réputation. Jésus avait promis un consolateur qui serait avec eux, qui les aiderait pour toujours. Dans aucun de ces passages, on ne voit les disciples, quelle qu'ait été leur expérience, que ce soit simplement en ayant prié, en ayant eu les mains, une imposition des mains, en ayant parlé en langue, il n'y en a aucun qui dit « Oh, c'est tout ce qu'il y a, c'est bien décevant, moi je m'attendais à plus ». Non. L'Esprit Saint donne sa plénitude et ils sont vraiment émerveillés, ils sont prêts à servir Dieu, à annoncer la parole, à témoigner, à partir évangéliser. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est que Dans Éphésiens 5, 18, on l'avait vu la semaine dernière, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Ça c'est Éphésiens 5, 18, un verset très important, qui est en fait l'ordre de Dieu, c'est une commande au même titre qu'il est dit dans la Bible « Marie, aimez vos femmes. » De la même façon, Dieu dit « Soyez remplis de l'Esprit. » Et la construction dans le langage grec veut dire en fait « Soyez continuellement en train d'être remplis de l'Esprit. » Donc il y a, c'est au pluriel, c'est pas seulement pour un chrétien, c'est, chaque chrétien doit recevoir, mais l'Église entière doit être remplie d'Esprit. C'est un passif, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui remplissons, on se laisse remplir par l'Esprit Saint, et c'est quelque chose de progressif et qui ne s'arrête pas une seule fois. Alors c'est vrai que la première fois que l'on reçoit ce don de l'Esprit, on peut parler du baptême, c'est ce dont on parle lorsqu'on parle du baptême de l'Esprit Saint, mais on peut recevoir l'Esprit Saint une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Parce que quelqu'un a dit, on est un peu comme des récipients qui fuient. On reçoit l'Esprit Saint, mais bien vite, notre chair nous écarte l'Esprit Saint, prend le dessus. Il y a des moments où on se dit justement, on n'a plus ces fruits de l'Esprit. On n'a plus cette joie, cette paix, cette patience, cette bienveillance, ce contrôle de soi, etc., cette gentillesse. Et un des meilleurs exemples, c'est encore notre apôtre Pierre. Si on se tourne dans le livre des Actes, dans Actes 2, 4, il est dit, parlant de tous les apôtres dont faisait partie l'apôtre Pierre, ils disent, ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Donc ça c'est la première fois, c'est le baptême pour Pierre et les autres. Mais dans Actes 4, 8, il est question de Pierre rempli d'Esprit Saint. Alors peut-être que c'était le premier baptême qui était toujours là, qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Mais au verset 31 du même chapitre, on en avait parlé, quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est pas une seule fois qu'on est rempli de l'Esprit Saint, on doit être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit Saint. Quelqu'un a dit, c'est un peu comme une respiration. On respire, on a de l'air dans nos poumons, mais on continue de respirer pour remplir nos poumons. L'Esprit Saint est en nous, mais on continue de le recevoir pour être rempli de l'Esprit Saint. Quelles sont les conditions pour être rempli du Saint-Esprit? On a vu les différentes méthodes, des réunions de prière, des impositions des mains. Et là, je m'inspire d'un écrivain qui s'appelle Tozer, dont j'ai déjà parlé. Et un des premiers points qu'il souligne, c'est pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord croire que c'est pour moi, que c'est pour vous. Parce que bien souvent, justement, suite à l'enseignement qui est donné dans certaines églises, on pense que c'est seulement pour l'église du premier siècle, lorsque la Bible n'était pas encore complètement finie, puisque les apôtres n'avaient pas nécessairement fini le Nouveau Testament. Mais il est sûr que Satan s'oppose farouchement à cette doctrine de la vie remplie du Saint-Esprit. Parce que là, c'est vraiment la défaite de Satan lorsqu'il y a des gens qui sont remplis d'Esprit Saint. Il va même jusqu'à en faire un sujet controversial, un sujet de controverse, pour que certains aient peur de lui. Et il y a des églises où, si on parle de l'Esprit Saint, d'une façon un peu précise et personnelle, les gens ont peur des excès qu'ils voient se passer dans certaines églises où on ne parle que d'Esprit Saint et où l'Esprit Saint devient presque un spectacle. Alors cet écrivain dit... J'aime bien cette expression. La vie remplie de l'Esprit n'est pas une version de luxe de la vie chrétienne. Un peu comme quand on va à à McDonald's, il y a le cheeseburger et puis il y a le Big Mac, quoi. C'est le deluxe, quoi. C'est pas... Ça fait partie, il dit, du plan que Dieu a pour chacun de nous. Vous devez réaliser que ce n'est pas une chose anormale, même si c'est une chose rare. Il y a peu de gens qui vivent cette vie, mais ce n'est pas anormal. Il dit, dans un monde où tout le monde serait malade, la santé serait rare, mais ne serait pas anormale. Et donc, de la même façon, la vie remplie d'esprit, c'est normal, c'est ce que Dieu veut. Et une chose aussi à corriger, c'est que le Saint-Esprit n'a rien de bizarre, de mystique ou d'inquiétant. Et ça, c'est un peu, encore, dans certains milieux, on présente l'esprit un peu comme quelque chose de très bizarre. Il faut être initié. Une fois qu'on est rempli d'esprit, on va faire des choses bizarres. C'est complètement faux. L'Esprit Saint, c'est l'esprit du Seigneur Jésus. L'Esprit Saint a la même beauté de caractère, la même noblesse de sentiment, le même attrait pour tous les hommes que le Seigneur Jésus. Donc se dire que le baptême du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit Saint, c'est pour nous. La deuxième chose, c'est de le vouloir. Mais là, est-ce qu'on le veut vraiment? Il faut le vouloir vraiment. Là encore, je laisse la parole à Tozer. Écoutez bien. Parce que c'est assez perçant. Êtes-vous sûr que vous voulez être possédé par un autre esprit que le vôtre? Même si cet esprit est le pur esprit de Dieu. Même s'il s'agit du gentil esprit de Jésus. Même s'il est saint, pur et libre. Même s'il est la sagesse personnifiée. La sagesse même. Même s'il a une précieuse onction à distiller qui guérit, même s'il est le cœur plein d'amour de Dieu, cet esprit, si jamais il vous possède, sera le maître de votre vie. Et il continue en disant, je vous le redemande, voulez-vous vraiment qu'il soit le maître de votre vie? Que vous vouliez les bénéfices, que vous en vouliez les bénéfices, ça je le sais, ça va sans dire. C'est vrai, avoir la puissance, avoir la joie, les fruits. Mais voulez-vous être vraiment possédé par lui? Voulez-vous vraiment remettre les clés de votre âme à l'Esprit Saint et lui dire, Seigneur, désormais, je n'ai même plus une seule clé de ma propre maison, je vais et je viens comme tu me l'ordonnes. Êtes-vous sûr de vouloir que votre personnalité soit conquise par celui qui s'attendra à votre obéissance à la parole, écrite et vivante? Par celui qui ne tolérera pas les péchés de votre part, les péchés de votre ego comme l'amour propre. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et l'amour propre en même temps dans votre cœur, de même que vous ne pouvez pas avoir la pureté et l'impureté au même moment dans le même lieu. Il ne vous permettra pas de satisfaire votre confiance en vous. L'amour propre, la confiance en soi, l'étalage d'une fausse sainteté, l'admiration de soi, l'exaltation de soi, la pitié de soi, sont sous l'interdit du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses que le Seigneur ne peut pas tolérer, il veut les détruire. Il ne peut envoyer son esprit dans un cœur qui recèle ces choses, qui cache ces choses. Puis il précise en continuant que l'Esprit Saint est en complète opposition au monde et à la facilité qu'on trouve dans le monde. Il ne peut pas tolérer le mal, on ne peut plus sourire pour des plaisanteries de mauvais goût, ne pas rire des choses que Dieu déteste. L'Esprit de Dieu, s'il prend le contrôle, vous opposera au monde comme Jésus a été opposé au monde. Le monde déteste l'Esprit Saint tout autant qu'il déteste Jésus-Christ qu'il a envoyé, donc celui dont il vient. Donc, est-ce qu'on est prêt à être en opposition avec le système de valeurs du monde? Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment recevoir l'Esprit Saint. Et ça aussi, c'est un aspect qui est souvent négligé. Lorsqu'on parle de baptême du Saint-Esprit, on a plutôt la mécanique, l'imposition des mains, qui se manifeste par un parler en langue, et on dit les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est un mensonge. Parce que s'il n'y a pas ces fruits, s'il n'y a pas de ce désir sincère, alors c'est une façade. Et finalement, la troisième chose pour pouvoir être baptisé de l'Esprit, pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint dans cette relation, il faut réaliser que nous avons besoin de lui. Et le même auteur dit, réfléchissez bien, en fait, est-ce que vous ne pouvez pas continuer comme vous êtes maintenant? Ça ne va pas trop mal pour vous jusqu'ici. Vous priez, vous lisez votre Bible, vous donnez pour les missions, vous aimez chanter des cantiques, vous remerciez Dieu de ce que vous ne buvez pas, vous ne jouez pas au jeu, vous n'allez pas au cinéma, vous êtes honnête, vous priez chez vous, vous êtes assez heureux de tout ça. Mais est-ce que vous réalisez que vous êtes appelé à un niveau de vie spirituelle qui est bien au-delà de ça, bien au-delà de ces choses extérieures? Est-ce que vous réalisez que vous avez besoin de l'Esprit Saint pour vivre la vie que Dieu a pour chacun de nous en tant que chrétien? Si on ressent une obscurité, une solitude spirituelle, il dit, ou une obscurité de l'intelligence, un vide dans le cœur, une espèce de solitude de l'âme, il faut se rappeler que cette solitude, cette nuit, ça précède l'aube, lorsque l'Esprit Saint vient sur nous. Mais encore une fois, est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on réalise qu'on a besoin de lui? Ça sont des questions profondes et auxquelles chacun doit répondre. Parce que c'est vrai, bien des fois, on se dit, oh, c'est pas mal comme ça. On a une l'impression qu'il y a cette assurance vie pour l'éternité, mais en fait on ne veut pas trop changer, on ne veut pas donner les clés de notre vie à l'Esprit Saint. Comment recevoir l'Esprit Saint? Première chose, c'est se présenter à Dieu, offrir nos corps à Dieu. Ça c'est Romains 12, 1 et 2. Page 181. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit, Dieu ne peut pas remplir ce qu'il n'a pas à sa disposition. Donc la première chose, c'est de dire, oui, vraiment, Seigneur, je vois que je te veux, j'ai besoin de toi, et je me présente à toi. Avec tout ce que ça comporte, non seulement mon corps, mais mes facultés, mes ressources, mon intelligence, ma personnalité, mon esprit, mes ambitions, mon amour, tout en me met. Pour recevoir, c'est très simple en fait. Il faut demander à Dieu. Luc 11. C'est Jésus qui enseigne et qui, à partir du verset 9, moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Et là il dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est vrai que si Sébastien me demande un œuf, je n'ai pas allé lui chercher un scorpion, il disait tiens, régale-toi, mâche bien. Même nous qui sommes imparfaits, on va essayer de donner de bonnes choses à nos enfants. Et ce verset merveilleux, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc il faut demander au Seigneur de nous donner l'Esprit Saint, de nous faire ce don de cette relation. L'Esprit Saint vient sur nous. Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui disent que ce don de l'Esprit n'est plus pour aujourd'hui, c'est que on lit le Nouveau Testament et il est question de ce don. Si c'était vraiment quelque chose réservé aux apôtres, Dieu n'aurait pas laissé ça dans sa Bible. Il aurait fait quelque chose pour que ça ne soit pas dans la Bible. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons vu, c'est la volonté de Dieu. Il nous demande d'obéir à son ordre. Soyez toujours en train d'être remplis d'Esprit. Donc c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis d'Esprit Saint. Et si c'est selon sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il va le faire. D'abord ce verset, puis 1 Jean 5, 14, ce verset que vous avez déjà entendu parler. Page 273 à la fin. Ça c'est un verset à souligner, à encadrer, à connaître, à mémoriser. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc si nous savons que quelque chose est selon sa volonté, et ça nous savons que recevoir l'Esprit Saint c'est selon sa volonté, alors nous pouvons être sûrs que nous allons recevoir. Nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est comme si nous l'avions déjà. Comment recevoir l'Esprit Saint, donc de demander, de le vouloir, demander à Dieu, mais obéir à Dieu. Dans Actes 5, 32, c'est Pierre qui parle et qui dit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un croyant qui n'est pas saint, dans le sens où nous confessons nos péchés lorsque nous sommes conscients de nos péchés, nous recevons le pardon de Dieu, nous faisons tous nos efforts pour vivre selon la parole, selon notre compréhension de la parole. Il faut vouloir obéir à Dieu pour être dans cette position de réception de l'Esprit Saint. Et finalement, la clé pour recevoir l'Esprit Saint, c'est encore une fois, c'est la foi. Dans Galates 3:2, c'est Paul qui est insensé parce que les habitants de Galate, les membres de l'église de Galate, imposent des choses extérieures, ce qu'on appellerait des œuvres, comme la circoncision ou d'autres œuvres, le respect de la loi de Moïse, des lois alimentaires, de respect de certains jours. Alors qu'en fait, il leur dit, voilà, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Donc encore une fois, là, c'est pas les choses extérieures qu'on peut faire, pratiquer la loi, mais c'est en écoutant avec foi que l'on reçoit l'Esprit Saint. On sait déjà que le salut, le pardon de Dieu, c'est un don, un cadeau. Dans Éphésiens 2:8, c'est pas la peine de vous y tourner, il est dit: c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire par ce que l'on fait, afin que personne ne se glorifie. La vie éternelle que Dieu nous propose, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mériter. Parce que si on pouvait le mériter, alors on s'en glorifiait. On dirait, moi j'ai eu 18, je passe, j'ai eu mon examen, je mérite le pardon. Non, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et le même Pierre parle dans Actes 2:38, il parle « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et encore une fois, un cadeau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va supplier, on ne va pas mendier pour un cadeau. Tout ce qu'on peut faire avec un cadeau, un don, c'est, lorsqu'il est proposé, c'est de le rejeter, de dire non merci, et de l'accepter. Et j'utilise souvent l'illustration lorsque je parle du salut. Si supposez que je vous fasse un merveilleux cadeau, une moto, une voiture, est-ce que vous êtes obligé de recevoir ce cadeau? Non, vous pouvez dire non merci, on vient de me faire un cadeau d'une voiture. J'étais pas sûr au départ que je voulais avoir une autre voiture, mais pour l'église, on a finalement accepté. Mais j'ai dit oui, bon, d'accord, on la prend. Mais maintenant, tous les mois, j'envoie pas un chèque à la personne qui m'a donné ce don. Un cadeau, c'est un cadeau, tout ce qu'on peut faire, c'est le recevoir. Alors c'est vrai que Satan nous dit que il est là parce qu'il veut pas l'Esprit Saint. Il dit, oh, mais tu ne mérites pas de recevoir l'Esprit Saint. Ou tu es trop sale pour l'Esprit Saint. Et on a vu que c'est vrai qu'il faut avoir ce désir d'être pur et de redonner les clés de sa vie à Jésus, à l'Esprit Saint. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait du jour au lendemain. On peut toujours confesser nos péchés, recevoir son pardon. Et si on demande l'Esprit Saint, on le demande sur le... parce qu'on réalise qu'on a besoin de lui pour le service, parce qu'on veut lui remettre les clés, on veut obéir, mais c'est pas lorsqu'on a atteint un certain niveau de sainteté qu'on va dire maintenant je viens parce que là je crois que j'ai les qualifications requises. Donc c'est très simple, beaucoup de gens font de l'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint, de parler en langue, de l'imposition des mains. Tout ça, l'imposition des mains, certains phénomènes comme ça, peuvent stimuler la foi de quelqu'un, de dire que oui, maintenant je sais que... On voit dans les livres des Actes des moments où, par exemple, des gens, lorsque l'ombre de Paul passait sur eux, des malades, ils se disaient « j'allais être guéri ». Et c'était un peu comme un point de contact pour leur foi. Leur foi pouvait dire « ah, maintenant ça va, je vais être guéri ». Et un peu cette imposition des mains ou ces choses-là peuvent un peu aussi fortifier notre foi. Mais tout ce que le Seigneur demande, c'est qu'on lui demande le don de l'Esprit et qu'on le reçoive par la foi. De même qu'on sait qu'on est sauvé par la foi, c'est pas par nos qualités, par nos bonnes œuvres. Et la meilleure façon de, par la foi, de croire qu'on a reçu l'Esprit Saint, c'est déjà de le remercier sans attendre de manifestations particulières qui peuvent venir. Il peut y avoir le parler en langue, il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir ces impressions physiques très fortes comme ces ondes d'amour liquide ou des sensations d'électricité, une légèreté, une joie. Mais en fait, l'Esprit Saint, c'est un cadeau de Dieu pour des saints qui sont faibles, afin de les rendre forts. Si on était déjà costaud, on n'aurait pas besoin de l'Esprit Saint. Ce serait une erreur que de croire qu'on n'arrive jamais à être assez costaud tout seul. Et donc, c'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit Saint. Et vous connaissez ce passage dans Hébreux. La foi, justement, c'est de croire sans voir. Alors s'il y a des manifestations visibles, c'est très bien, mais la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et plus loin dans le même chapitre, il dit « sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu ». Voilà ce que c'est que l'Esprit Saint et la, comment on peut recevoir l'Esprit Saint. Maintenant, on est réunis, j'espère que le bâtiment ne va pas trembler. Mais j'aimerais demander, peut-être qu'il y en a certains qui n'ont jamais reçu l'Esprit Saint de cette façon, cette relation épi. Si c'est votre cas, je vais vous demander de vous lever, ou même si vous voulez être rempli de nouveau, vous levez et on va prier ensemble. On va rechanter ce cantique qu'on a chanté à la fin. Et je pense que ces paroles maintenant prendront plus de sens, parce qu'il dit « Sois le maître en moi ». C'est pas quelque chose de en l'air. Donc, est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient aujourd'hui recevoir l'Esprit Saint pour la première fois ou pour une autre fois? Oui. On va d'abord chanter. Non? Seigneur, ta parole nous commande d'être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, et nous voulons obéir à ta parole, Seigneur.